Racines du ciel, une émission de Lélie Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Alain Joubert. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du docteur Christophe Massin pour parler de la confiance. Ce que c'est exactement, quelles sont ses diverses nuances psychiques ou spirituelles, quels sont ses degrés, par quel travail sur soi et en particulier sur nos peurs, pouvons-nous entrer dans la confiance, confiance relative ou confiance absolue, et pourquoi cette confiance est souhaitable pour mener une vie meilleure, plus lucide, plus accordée au réel. Bonjour Christophe Massin.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, mais un psychiatre d'un genre un peu particulier, puisque vous êtes profondément inspiré dans votre pratique personnelle et médicale des sagesses de l'Inde, en particulier des enseignements de Mahanandamay et de Swami Prajnampad. Et plus largement, vous n'excluez pas, loin de là, la dimension spirituelle de votre approche thérapeutique. Vous vous êtes particulièrement intéressé à la place des émotions dans la vie psychique et à la manière dont ces émotions jouent un rôle essentiel dans le travail de connaissance de soi qu'est toute entreprise spirituelle. Vous avez d'ailleurs publié sur ce sujet un excellent ouvrage qui a remporté le prix Psychologie FNAC en 2014 et pour lequel d'ailleurs nous vous avions reçu aux Racines du Ciel au temps où nous faisions les Racines du Ciel avec Frédéric Lenoir et que c'était diffusé à 7h du matin puisque ça ne leur a pas échappé à nos auditeurs que désormais nous sommes le dimanche à 16h. Vous nous revenez donc cette année avec un nouvel ouvrage toujours chez Odile Jacob intitulé « Une vie en confiance, dialogue sur la peur et autres folies », ouvrage dans lequel vous analysez les mécanismes des peurs qui nous empêchent d'aborder la réalité telle qu'elle est et de vivre par conséquent une vie en confiance, une vie où on est réellement soi-même. Mais je voudrais commencer cette émission par la fin, en réalité, de votre livre, si vous me le permettez, puisque à la fin de votre livre, vous consacrez 2 pages dans lesquelles vous rendez hommage à tous ceux qui vous ont aidé à grandir et à entrer dans cette confiance. Donc Christophe Massin, comment le psychiatre que vous étiez, le psychiatre français formé à l'école de médecine française, est entré dans cette philosophie si particulière inspirée des sagesses de l'Inde?
Alors, quand j'y suis entré, en fait, j'étais pas psychiatre, j'étais étudiant en médecine. Et c'est en lisant les livres d'Arnaud Desjardins et Le message des Tibétains, comme ça, avant de partir en Inde, que j'ai découvert cet univers que j'ignorais totalement. Et en lisant le message des Tibétains, j'ai dit « Ah, mais il y a là quelque chose de vraiment extraordinaire. » Et mon voyage en Inde va changer de perspective. Et arrivé en Inde, donc j'ai eu vraiment l'envie d'aller rencontrer ces maîtres tibétains dont Arnaud parlait dans le message. Et j'en ai rencontré un notamment qui s'appelait Kangyur Rinpoche, qui était le premier maître de Mathieu Ricard. Mmh. Et cette rencontre, c'était juste avant sa mort. Là, vraiment, c'est comme si, un mur tombait devant moi et que je découvrais, ah, mais ça existe, un tel rayonnement, une telle joie, un tel amour. Je n'avais aucune notion de ça. Donc, j'avais 20 ans et je dirais ça a changé le cours de ma vie. Donc, j'ai lu les autres. À l'époque, il y avait Les Chemins de la Sagesse d'Arnaud Desjardins qui était publié, donc ses premiers livres en fait. Et j'avais ça en Inde. Et donc j'ai lu Les Chemins de la Sagesse et j'ai dit mais c'est ça que je cherche sans le savoir. Et donc en fait Arnaud était là en Inde pour son dernier séjour auprès de son maître qui est mort lui aussi juste après. Mmh. Et de retour en France, je lui ai écrit et je suis allé le voir. Et de là, toute l'aventure a commencé.
Et je crois que cette aventure vous a d'ailleurs mené à rencontrer aussi Denise Desjardins, oui, à laquelle je voudrais ici rendre hommage, puisqu'elle est décédée en mars de cette année. D'ailleurs, notre partenaire Le Monde des Religions a mis sur son site un entretien vidéo qui avait été fait avec elle, donc sur le site lemondesdesreligions.fr, on peut la retrouver. Et nos auditeurs pourront aussi la retrouver lors des rediffusions de l'été, dans les deux émissions que nous lui avions consacrées dans la série des grands témoins. C'est vrai que nous sommes très heureux de l'avoir rencontrée avant qu'elle ne parte pour ce dernier voyage, parce que c'est vrai qu'elle c'était une femme d'un rayonnement absolument incroyable. C'est vrai qu'on a été très impressionnés de la rencontrer, et je crois que pour vous aussi, ça a été une rencontre très, très importante.
Oui, oui. Oui, et Denise et Arnaud, les deux ont été une rencontre très importante. Denise, par toute son approche du travail sur l'inconscient, sur les émotions, donc j'ai découvert avec elle, et puis Arnaud, plutôt en tant que vraiment guide spirituel pendant des années. Mmh. Donc oui, ces deux personnes ont joué un rôle essentiel dans mon cheminement, le plus important en fait.
Alors justement, c'est vrai que ce qui était ressorti beaucoup des entretiens que nous avions eus avec Denise Desjardins, c'est précisément cette question très importante dans tout cheminement spirituel, qui est de se confronter à ses peurs. Et au fond, votre livre, qui est un livre sur la confiance, commence par déblayer le terrain de la peur, d'expliquer ce que c'est que la peur. Alors, expliquez-nous, Christophe Massin, de quoi sont tissées nos peurs et en fait d'où elles viennent, à la fois d'un point de vue psychiatrique, d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue spirituel.
Oui, je dirais, pour moi, il y a des peurs qui sont les peurs qui surgissent au contact d'un événement dangereux, qui font partie de la vie, ce que j'appelle les peurs animales. Ces peurs-là ne posent pas de problème. Ben voilà, vous manquez de vous faire renverser par une voiture, vous avez peur, vous faites un bond en arrière. Ces peurs-là ne sont pas un souci.
Elles sont même
elles
utiles.
Elles sont utiles. Oui. Et on voit certains enfants ont un défaut génétique, ils n'ont pas peur et ils se mettent en danger, ils se tuent en fait. Donc cette peur-là est protectrice de la vie. Mais nous avons un autre registre de peurs que j'appelle dans le livre des peurs psychologiques, qui sont des peurs que nous mémorisons durant l'enfance, au contact de situations qui, pour l'enfant, sont vécues comme dangereuses, dans son monde, dans son ressenti, qui le sont pas forcément objectivement, mais lui, en tout cas, il les vit comme ça. Et donc, il en tire inconsciemment des lois. Et qui vont l'amener à se méfier et à développer des comportements d'évitement, toutes sortes de choses qui vont lui compliquer énormément la tâche pour ne pas se trouver confronté à nouveau à la peur. Et donc ces peurs justement vont se remanifester à l'âge adulte et dans des situations aussi bien relationnelles que des situations de travail, dans tous les domaines de la vie, le passage d'un examen, que sais-je. Donc on va voir ressurgir des peurs et qui sont complètement disproportionnées par rapport à la situation, qui sont plus des peurs, qui sont en rapport direct avec la situation, qui viennent vraiment de la situation, mais que nous projetons. Donc, ils viennent de l'intérieur et quelqu'un qui est anxieux, il est comme une tête chercheuse pour chercher le problème qui va se produire. Et il va en voir partout des problèmes. Donc, c'est pas qu'il y a des problèmes à l'extérieur, c'est que cette personne, en quelque sorte, a besoin pour satisfaire, entre guillemets, son anxiété, d'en trouver. Donc ça, c'est une véritable calamité, en fait, pour la personne. Mais le plus souvent, ces peurs sont latentes. Elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas conscientes et elles agissent dans l'ombre. Et donc, voilà, ces peurs-là, elles sont véritablement problématiques. Si j'ai peur du rejet, si j'ai peur de l'abandon, souvent, je ne le sais même pas.
Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au fond, travailler la peur. Et c'est en cela aussi que c'est en relation directe, à mon sens, et c'est ce que vous montrez dans le livre, avec un travail de connaissance de soi, qui est quand même la base du travail spirituel, c'est que, en fait, la peur, elle est basée très souvent sur de l'ignorance, c'est-à-dire sur des imaginations, sur des illusions, ou c'est des choses qu'on ne sait pas sur soi-même, ou des choses que l'on croit savoir, mais qui sont purement illusoires.
Vous disiez, il y a deux ordres, il y a une explication spirituelle et une explication psychologique. Là, j'ai évoqué l'explication psychologique. Oui, il y a une cause historique à nos peurs qui viennent de l'enfance, mais il y a aussi une explication ontologique. Qui est ce que dit le Vedanta, qu'à partir du moment où il y a deux, il y a la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à partir du moment où je me considère comme un individu séparé, ayant sa propre volition, ses propres désirs, ses propres craintes, eh bien, le reste, tout ce qui n'est pas moi, eh bien, peut ne pas répondre à mon attente, peut me menacer, peut me mettre en danger. Et donc, pour maintenir mon existence séparée, eh bien, je vais être, au fond, dans un combat permanent avec le reste, pour que le reste m'obéisse, ne m'impose pas des choses que je ne veux pas. Donc, je vais être dans une tension. une tension de peur. Donc, il y a cette explication plus fondamentale à la peur, parce que certes, on peut progresser par un travail de psychothérapie sur les peurs particulières de chacun, mais on va trouver la confiance, se dégager de l'emprise de la peur, qui est l'émotion fondamentale, qui est l'émotion justement de la séparation. Quand on est séparé de la totalité, eh bien, on est en insécurité, en fait, fondamentalement.
Oui, et donc le travail consiste, alors en même temps, vous avez fait ce livre sous la forme d'un dialogue qui est en fait fictif, mais à base de réel, voilà, d'expériences réelles que vous avez mélangées en fait, et que vous avez représentées par un homme et une femme. Mais alors dans le dialogue, c'est vrai que souvent quand vous donnez des explications, vos personnages, ils sont assez vite convaincus, je dirais. Mais c'est vrai que dans le réel, ça prend quand même beaucoup plus de temps de se confronter à la peur, puisque comme vous le dites, ça commence dès qu'on est bébé. Au fond, on ne peut pas s'empêcher d'être des êtres de peur. Ça n'existe pas un monde dans lequel il n'y aurait pas la peur.
Bien sûr. Donc déjà, la première étape, c'est souvent des expériences de la vie qui vont nous montrer, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, on va pas dire forcément c'est la peur, mais on va dire ah ben j'arrive pas à faire ceci, ou mes relations affectives capotent toujours, ou j'arrive pas à faire les études que je veux, ou que sais-je. Donc on va constater que quelque chose ne va pas, mais sans forcément dire c'est la peur qui cause ça. On va attribuer ça souvent à d'autres causes en fait. Donc il y a effectivement un premier cheminement qui est de mettre en évidence la peur qui est à l'arrière-plan.
Vous donnez un exemple qui m'a beaucoup frappé. C'est celui de l'enfant qui croit qu'il y a un loup dans sa chambre. Alors, moi, ma fille, elle croyait toujours qu'il y avait des requins, mais qu'importe, hein, ça peut être des loups, des requins ou des araignées. Mais la question, c'est... et vous dites, on ne peut pas dire à l'enfant, mais non, il n'y a pas de loup. On peut allumer la lumière, lui dire, mais tu vois bien qu'il n'y a pas de loup. Mais vous dites, ça ne marche pas. Alors d'abord, pourquoi... Et c'est pareil pour les adultes. En réalité, vous donnez cet exemple pour montrer que nous aussi, on a des peurs totalement irrationnelles, mais on aura beau nous expliquer qu'il ne faut pas qu'on ait peur, enfin, il n'y a pas de quoi avoir peur, eh bien, on a quand même peur.
Et oui.
Alors, comment... mais vous n'expliquez pas exactement comment on peut, ne serait-ce qu'à l'enfant, comment on peut le convaincre qu'il n'y a pas de loup. Puisque dès qu'on aura éteint la lumière, à nouveau, le loup va ressurgir dans son imagination.
Mais parce qu'en fait, au fond, la peur de l'enfant nous dérange et on veut supprimer la peur. Et donc, justement, ce que je veux montrer dans le livre, c'est que ça, c'est vain. Ça ne fonctionne pas. La personne qui a peur, elle a peur. C'est indiscutable et vous pouvez lui expliquer qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ça peut la rassurer un peu, mais ça ne va pas résoudre sa peur. Donc, il y a un chemin à faire vers la peur qui est déjà d'admettre, mais oui, j'ai peur. L'enfant, avant tout, si vous lui dites qu'il n'y a pas de loup, il est seul avec sa peur et donc il reste inquiet. Donc, il a besoin que vous soyez à ses côtés, à dire « Ah oui, tu as très peur du loup, mais oui, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? T'entends des bruits? Tu as vu une forme? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un loup ?» Que vous rentriez complètement dans son monde de peur, pour qu'il puisse exprimer sa peur. Et souvent, on va aboutir éventuellement à quelque chose qu'on n'a pas prévu, de ce qui fait véritablement peur. Mais si on s'en tient à « mais non, c'est stupide, enfin regarde, il n'y a pas de loup », l'enfant se sent incompris, on n'entre pas en relation avec sa peur. Donc ce qui est nécessaire, c'est de se mettre à la portée de la peur pour la laisser parler et voir « mais qu'est-ce qu'elle veut me dire ?»
Est-ce qu'il y a dans le ressenti, dans le corps, quelque chose qui est plus proche du réel que la construction du raisonnement?
Quand on est dans la peur, on imagine. Au sens propre, on a des images, on imagine, il va se passer ceci, il va se passer cela. On est fixé sur des images mentales qui sont elles-mêmes comme de l'essence qui va activer le feu. Donc plus j'imagine, plus j'ai peur. Donc, du point de vue de l'imaginaire et de la pensée, il n'y a pas de solution. Alors, j'essaye, si quelqu'un vient me dire « mais non, n'aie pas peur », je vais essayer de remplacer certaines images par des images plus rassurantes. Mais ça ne va pas coller. Mes images à moi, elles vont revenir. Donc, en fait, faire l'expérience de la peur, la peur est une émotion et comme toutes les autres émotions, c'est un vécu d'abord dans le corps. L'aspect mental est secondaire d'un point de vue aussi phylogénétique. Chez l'animal, l'émotion, elle est vécue dans le corps. Donc, on revient au ici et maintenant. Dans la pensée, on n'est pas ici et maintenant, on est ailleurs et après.
Voilà.
Il va se passer ci, plus tard. Donc, sur ce qui va se passer plus tard, je n'ai aucune prise. Sur ce qui se passe maintenant j'ai peur. Là, j'ai une prise parce que, ayant peur, je sens mon cœur qui bat, mon estomac qui est noué, mes mains moites. Là, je peux rentrer en contact avec moi. Déjà, là, je suis ici maintenant. Et en fait, je peux découvrir que si mon scénario catastrophe, lui, me tétanise, que d'affronter ma peur ici et maintenant, ça c'est tout à fait possible. Et donc je peux laisser passer les vagues de peur et me rendre compte que ça ne me détruit pas et qu'en fait si je vis ma peur dans mon corps, eh ben c'est jouable, je peux faire avec et j'ai pas besoin de me rassurer et qu'au bout d'un moment, je peux ramener la représentation qui me fait peur, laisser la réaction monter et peu à peu la réaction s'épuise. Naturellement, sans que je me raisonne, sans que je sois obligé de me manipuler mentalement.
Alors pourquoi, au-delà de la question du fait que ça nous empoisonne la vie, d'être tétanisé par la peur, ou que ça nous empêche d'être véritablement ce qu'on est, de développer nos talents à la hauteur de ce qu'ils sont, pourquoi la peur est une émotion aussi négative sur le plan spirituel?
Parce que la peur est sûrement l'émotion qui engendre le plus de refus. La peur est une émotion aversive, doublement aversive. D'abord, ressentir la peur, c'est pénible. Et en plus, l'objet de la peur aussi, il y a une aversion. Donc, tout ça fait qu'on a envie de ne pas être là, on a envie de ne pas être en contact. Et si la vie spirituelle, c'est être là, ici et maintenant, si on prend les choses au plus simple, être totalement, entièrement là, ben l'émotion de peur est l'émotion qui va nous chasser du ici et maintenant en nous envoyant ailleurs et après dans des représentations imaginaires. Donc je ne suis plus là.
Voici ce que disait Swami Prajnapad au sujet de la peur. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est la peur, qui apparaît sous des formes aussi diverses que la honte, la jalousie, la colère, l'insolence, l'arrogance. Quelle est la cause de la peur? Le manque de confiance en soi. Quelle est la nature de la peur? La peur est une attirance négative. Elle est un souhait négatif. Vous souhaitez quelque chose, mais d'une certaine façon, vous voulez le refouler. La peur apparaît. La peur de la mort, ce n'est que l'attirance vers la mort. La peur est une attirance négative. Soyez libre de la peur. Vous pouvez vous rendre libre de la peur si vous pouvez vous libérer de la haine. Si vous voulez tuer et que vous ne pouvez pas, alors vous sentez que vous êtes menacé de mort. J'ai fait exprès de lire plusieurs petits paragraphes, les quelques paragraphes qui sont sous le mot peur, parce qu'on voit plusieurs éléments apparaître ici et qui, au fond, sont tous repris dans votre livre, de manière un peu plus développée. Le premier qui m'intéresse ici, c'est qu'il relie en fait la peur, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est un tel problème sur le plan spirituel. Il lie ça à la honte, la jalousie, l'insolence, l'arrogance. C'est-à-dire qu'en fait, la peur nous fait entrer dans des vices ou des défauts. C'est-à-dire, elle nous amène à nous comporter d'une manière antiéthique, d'une manière qui n'est pas juste, d'une manière qui n'est pas en accord avec les valeurs d'humanité qui sont... qu'on va appeler, pour faire vite, les vertus humaines. Christophe Massin, est-ce que c'est aussi ça le problème de la peur? C'est que ça nous fait faire des choses qui ne sont pas dignes de nous.
Oui, mais donc, je ne voudrais pas pour autant qu'on la diabolise,
oui, bien
la
sûr.
Peur.
Vous faites très attention à ça.
Très attentif à ça, parce que c'est déjà pas facile d'avoir peur. Et si on traite la peur en ennemi, ça va pas aller. Non, il faut pas traiter la peur en ennemi, pas dire que c'est le mal absolu. Bon,
non, oui, mais la cause, mais ça voilà. Peut être la cause. Oui.
Mais elle nous met en difficulté, certes. Et effectivement, quand Swami Prajnapad dit à la base, il y a le manque de confiance en soi, dans toutes les émotions qu'il cite, la honte, etc. Oui, c'est-à-dire que je ne me crédite pas au fond. Je vois que les ressources du petit moi. Le petit moi, ben oui, il a des ressources limitées et forcément, si on le critique, si on l'aime pas, il va se rebeller ou il va avoir honte. Mais il ne réalise pas qu'il est infiniment plus, nous ne réalisons pas que nous sommes infiniment plus que cela et que nous avons en nous une ressource. La confiance en soi, c'est pas seulement une confiance narcissique, en fait, dans mes capacités, je suis le meilleur, je suis plus malin. Non, c'est une confiance dans le fait qu'il y a en moi une intelligence qui saura répondre à la situation.
Oui, mais en même temps, vous expliquez bien que, justement, c'est pour ça qu'il faut travailler en parallèle sur la question de l'ego. Mmh. C'est-à-dire qu'en réalité, alors, est-ce que c'est la peur qui nourrit l'ego ou l'ego qui nourrit la peur? C'est peut-être un cercle vicieux,
Christophe oui, Massin. Oui, c'est indissociable. L'ego est tissé de peur. Il veut garder ses acquis, il a peur qu'on les lui enlève, il veut obtenir davantage. Donc, l'ego est dans un souci permanent, en fait.
Le cœur brisé, le corps endolori, je visite les vestiges de ma vie. Je surveille le soleil de minuit, je n'ai pas sommeil. Le cœur brisé, le corps endolori, sur la tôle comme le chant de la pluie. Requiem pour un crétin fini, je n'ai pas sommeil. Le cœur en sang et la vue sur la nuit et la claque du vent. Et la gifle du bruit, le cœur en sang, comme le goût de la vie a changé récemment, comme un goût de mépris. Cherche le vertige infini. J'ai gâché tous les sels de la vie. Je n'ai pas sommeil. Le cœur brisé et le visage gris. Ça tourne et puis ça rétrécit. Je surveille le sommeil de minuit. Je n'ai pas soleil. Le cœur en sang et la vue sur la nuit. Et la claque du vent, et la gifle du bruit.
France Culture, les racines du ciel.
Le cœur en sang,
les lions.
Comme le goût de la vie a changé.
On en revient donc à la question de l'illusion. Finalement, si on peut dire que s'il y avait une ontologie de la peur, elle serait liée à la question que tout le monde doit se poser, qu'est-ce que le réel ? Et ce que vous pourfendez, au fond, ce sont nos illusions, Christophe Massin, même dans votre démarche thérapeutique.
Ce qui est important, c'est de ne pas se mentir. En fait, on a tendance, sous l'emprise de la peur, à se mentir, à se raconter des histoires pour se rassurer. Et en fait, il faut être sans pitié avec ces histoires parce qu'elles nous emprisonnent, elles nous aliènent. Donc non, il vaut mieux voir la réalité crue, aussi dérangeante soit-elle, parce que c'est la seule manière d'être en paix quand on voit les choses comme elles sont. Et les choses comme elles sont souvent difficiles, en fait.
Oui, par exemple, alors expliquez-nous un cas de ça, un cas pratique. Dans le livre, c'est une difficulté, par exemple, à s'engager. On pourrait croire qu'une difficulté à s'engager n'est pas forcément liée à la peur. Mais vous, finalement, vous arrivez avec le patient en question.
Oui.
À la conclusion que si. Alors, expliquez-nous cette mécanique, en fait.
Quand on a peur de s'engager, souvent, on va se donner des bonnes raisons en disant oh, « parce que je ne m'engage pas, parce que ce n'est pas la bonne personne, voilà. Parce que oh, puis après, je vais perdre ma liberté, etc. Enfin, » des raisons assez générales donc, qui peuvent avoir leur part de vérité. C'est vrai que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mmh. Ces éléments comptent. Mais si cette difficulté à m'engager m'empêche de construire une relation dans la durée, au bout d'un moment, je dois quand même suspecter qu'il y a autre chose et pas seulement, je dirais, un peu de bon sens, de ne pas s'engager aveuglément avec la première personne venue. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc, effectivement, là, dans le livre, je fais le chemin avec cette personne de voir mais qu'est-ce qui fait, quel est l'obstacle, en fait ? Et donc, ce qui amène à voir, effectivement, une peur à l'arrière-plan et chez cette personne de la dépendance négative, ce que j'appelle la dépendance négative. Quand on n'a pas, justement, la confiance dans la relation avec l'autre, eh bien, on a tendance, pour garder l'autre, pour, en espérant garder l'autre, renoncer à des parts de soi-même. Et donc, se nier. Et donc, comme un marchandage secret, où on va s'amputer de ceci ou de cela, en espérant que grâce à ça, je vais conserver la relation.
Voilà, parce qu'on a à nouveau, on a peur de perdre,
voilà.
Au fond.
Mais donc, finalement, ce qu'on ne voit pas, c'est, nous, on va projeter ça sur l'autre, l'autre va m'enfermer, l'autre va me faire perdre ma liberté. Non, c'est ma peur qui m'enferme, c'est ma peur qui me dit non, ne dis pas ça, ne fais pas ça, sinon ça va déplaire à l'autre, ça va provoquer des réactions. Donc, on se censure soi-même, en fait, mais on l'impute à l'autre.
Oui, d'ailleurs, il n'y a pas que les malades, entre guillemets, ou les patients qui doivent faire ce travail. C'est un travail que absolument tout le monde doit, dans lequel absolument tout le monde doit s'engager s'il veut un temps soit peu précisément se connaître, ou en tout cas connaître quelque chose du réel, même si c'est toujours très très peu par rapport à la totalité. Mais en fait, c'est ce que vous expliquez. Vous ne parlez pas de cas pathologiques en réalité. Vous parlez
Non, c'est pas de la psychiatrie. C'est le français moyen, comme vous et moi, avec les émotions et les peurs que la plupart d'entre nous portent en fait. Souvent, nous sommes dans une fausse non-dualité, c'est-à-dire d'espérer que les choses vont correspondre à mon monde. Qu'il n'y aura pas le monde d'un côté et moi, mais que le monde va se comporter comme je l'attends. Donc ça, c'est une fausse non-dualité. Puis à un moment donné, le monde, le conjoint, le patron va amener un élément qui nous font sentir « Ah mais non, ça ne colle pas ». Et là, d'un seul coup, on va être dans la dualité « Ah mais il y a vraiment moi et ça qui se passe ».
Ça résiste en fait, le réel résiste.
Donc... À ce moment-là, effectivement, l'émotion est un signal. Là, la dualité est bel et bien là. Et donc, ben, qui a raison ? Est-ce que c'est mon monde ou est-ce que c'est le monde ? Bon, la réponse est assez simple, mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'incliner comme ça.
Quelle est la réponse ?
Il y a ma vérité qui existe et qui est telle qu'elle est. Et en fait, si dans ma vérité, je refuse une part du réel, je vais être en difficulté. Donc, si je m'aperçois que je suis malade, bah, évidemment, ma vérité, c'est que je n'ai pas envie d'être malade. Donc, je peux dire, ah non, pas la maladie. Donc, mais si je reste dans cette position, eh ben, ce qu'on voit chez certains patients, ils ne vont pas se soigner parce qu'ils refusent la maladie. Donc, j'ai à faire un chemin qui va inclure le fait que je suis malade, m'incliner devant le monde, et en même temps reconnaître, mais j'ai pas envie d'être malade, donc je vais me soigner. Donc, c'est effectivement l'un et l'autre. Il s'agit pas d'annuler quoi que ce soit.
C'est ça, oui, mais alors si j'arrive pas à me soigner, et c'est là où on va commencer à parler de la confiance.
Oui.
Je suis malade, bon, j'essaye de me soigner, je vais voir le médecin, et au fond, ma maladie est incurable.
Oui.
Et il est légitime de ressentir une peur panique, Christophe Massin.
C'est sûr. Mais justement, c'est là où le retournement est d'autant plus fondamental. Parce que si on reste en résistance, eh bien, on va être détruit. Oui, il y a la maladie, et en plus, la maladie est incurable. Si je reste dans « Oh non, pas ça, surtout pas ça », eh bien... Je suis laminé et je vais sombrer dans le désespoir le plus total, en fait. Donc, ce refus n'est pas mon allié. Donc, même si la situation objective est désespérée, c'est pas parce que la situation est désespérée que je suis condamné à l'être, moi, désespéré. Parce que je vais voir dans cette situation qu'est-ce qui m'est possible. Il y a toujours quelque chose qui m'est possible dans toute situation. Pas forcément que les circonstances extérieures m'obéissent, et dans bien des situations, l'extérieur ne m'obéira pas. Mais en revanche, où je vais être comme une victime dans cette situation, la victime, elle subit contre son gré une situation, ou au contraire, je vois, bon, ben maintenant je ne peux pas m'échapper, la maladie est là, comment est-ce que je vais la vivre ? Est-ce que je peux consentir, reconnaître, ben oui, ce n'est pas moi le plus fort, la vie m'impose ça, donc est-ce que je peux accueillir ma peur, ben reconnaître, je peux comprendre que j'ai peur dans cette situation, je peux comprendre que j'ai de la révolte, mais je fais un chemin avec ça, c'est-à-dire je ne vais pas en rester là. c'est le point de départ. Bah oui, que ça soit la panique, comme vous le dites, c'est naturel. Si on m'apprend une mauvaise nouvelle, forcément, dans un premier temps, il y a ça, cette réaction qui est humaine et est totalement compréhensible. Mais je me rends compte, si je vois, si je reste dans cette réaction et cette manière de voir les choses, ça se retourne contre moi. Et donc, je vais être désespéré. Donc, si je traverse, en fait, oui, je suis tétanisé, au bout d'un moment, je vais voir, bon, ben d'accord, je ne peux pas avoir peur davantage, entre guillemets, c'est bon. Maintenant, ok, je suis malade, comment je me prépare si je vais mourir, comment je me prépare, en fait, et comment je vis ce qui me reste à vivre, ce qu'un certain nombre de personnes font.
Bien sûr, de manière magistrale, même, oui. Parfois, oui. Et alors, c'est ce que vous appelez, justement, la confiance dans la vie, en réalité. Pour vous, il y a trois directions de la peur. Il y a la peur des autres, de la vie et de soi-même. Mais c'est pareil pour la confiance. Il y a la confiance en soi, la confiance dans les autres et la confiance dans la vie. Là, on a parlé de quelque chose qui concerne plus la confiance dans la vie. Mais en fait, les trois sont liés. Parce que on ne peut pas dissocier soi-même des autres ni de la vie telle qu'elle découle. Et vous montrez bien que, justement, on ne peut pas entrer dans la confiance qui est peut-être la condition de la joie intérieure, la condition sine qua non presque de la joie intérieure, sans, justement, sans accepter les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est vraiment le mot-clé de tout votre travail, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, mais de manière lucide, pas en balayant sous le tapis. Ça, il faut peut-être faire la distinction, Christophe Massin, de pas penser que l'entrée en confiance est un travail d'optimisme idiot ou béat. C'est pas Candide qui dit « tout va au mieux dans le meilleur des mondes possibles » alors que tous les malheurs lui sont advenus.
Oui, l'acceptation est une chose très simple comme idée, mais extrêmement subtile et délicate à mettre en pratique, qui suscite beaucoup d'incompréhension et bien des personnes, quand elles entendent parler d'acceptation, voient en fait la résignation, c'est-à-dire « bon ben voilà, c'est comme ça, allez je me fais une raison, c'est la vie ». Mais en fait cette acceptation-là, elle est tiède, elle n'est pas joyeuse ou elle est carrément résignée et négative. Donc c'est pas l'acceptation, l'acceptation est joyeuse. Donc qu'est-ce que ça veut dire une acceptation joyeuse de quelque chose de douloureux? Ça semble complètement paradoxal, en fait, et même incompréhensible. Donc l'acceptation, déjà, c'est de, souvent, la deuxième erreur qu'on fait très souvent, c'est de considérer, il y a moi et la situation. Donc je dois accepter la situation sans prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de moi. On se sépare de la situation, mais en fait non, je suis un élément de la situation. Si ma fille a un souci, je peux dire « ah, ma fille a un souci, il faut que j'accepte que ma fille a un souci ». Mais non, il faut que j'accepte que ma fille a un souci et que moi-même j'ai un souci
de ce fait
et que moi-même je suis mal avec ça. Si je veux occulter cet élément-là, ça peut pas fonctionner parce que c'est un élément du réel, mon inquiétude. Donc, toutes les émotions, les pensées que je peux avoir font partie de la situation. Donc, il n'y a pas moi d'un côté et la situation de l'autre. Ce point-là est fondamental parce que, je dirais, dans 90% des cas, je vois les gens buter là-dessus, c'est-à-dire chercher à accepter sans prendre en compte leur vécu. Et ce vécu, il ne s'agit pas juste d'en être informé. C'est encore une autre difficulté de dire « bon, bah, je sais bien que j'ai peur, et alors ?» Et c'est là où on a un chemin intérieur à faire qui n'est pas évident. C'est pour ça l'acceptation. Dans les textes traditionnels, on dit « pour se donner, il faut s'appartenir ». Mais en fait, on s'appartient pas. Pour accepter, il faut s'appartenir. Et nous ne nous appartenons pas, en réalité. Nous ne sommes pas connectés de la tête aux pieds à ce que nous sommes avec tout notre monde intérieur. Et toute une part du chemin intérieur, c'est justement de rentrer en contact avec ce que nous sommes, et notamment ces fameuses émotions. Nos pensées, on est très en contact avec elles. Mais nos émotions, on est en contact avec la surface de nos émotions. Et donc là, il s'agit de, comme un scaphandrier, de descendre dans le monde intérieur de l'émotion, comme je l'évoquais tout à l'heure à propos de l'enfant, de voir, mais oui, comment l'émotion envisage les choses? Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir? Qu'est-ce qu'elle m'annonce? Qu'est-ce qu'elle me dit? Et de m'ouvrir et de me laisser traverser, bouleverser, remuer par l'émotion sans aucunement résister. Ce qui est difficile. Donc accepter n'est en rien une chose facile. C'est une chose simple mais pas facile.
Oui, mais alors comment cette acceptation, elle est liée à la question de la confiance? C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas de vraie, véritable confiance? Et vous allez nous expliquer d'ailleurs que vous pensez qu'il y a une confiance relative et une confiance absolue. Mais en tout cas, pourquoi c'est incontournable l'acceptation pour pouvoir être dans un état intérieur de confiance?
Parce que la confiance, pour moi, est liée à un contact, à un appui. On a confiance parce qu'on sent qu'on peut s'appuyer sur le sol, on dit sur le sol ferme de la vérité. Voilà, on a besoin d'un appui. Quand on est dans la peur, on n'a que des images mentales. Ces images mentales sont fantasmagoriques, elles n'ont aucune consistance, bien qu'elles mettent en nous un grand émoi. En fait, elles sont évanescentes en même temps.
C'est presque, plus elles sont évanescentes et plus elles nous mettent en émoi. C'est
exactement.
Ça qui est bizarre.
Exactement. Et justement, il n'y a pas de contact là-dedans. Et nous avons absolument besoin d'un contact. On voit ça chez le petit enfant. Ce n'est pas des discours qui rassurent un bébé. C'est qu'on le prenne dans les bras. C'est le contact au sens propre, physique. Donc nous avons besoin, pour trouver la tranquillité, de revenir à quelque chose qui est consistant, un contact. Et le seul contact que nous avons, c'est la réalité. Quand je n'accepte pas, je refuse la réalité, je perds immédiatement le contact. Si vous m'êtes antipathique, eh ben, je veux pas être en contact avec vous, j'ai même pas envie de vous regarder. Je suis pas en contact avec les gens que j'aime pas parce qu'en fait, je m'en détourne. Donc, c'est en acceptant, ben, d'accord, il y a une antipathie, j'accepte mon antipathie, mais j'accepte de recevoir tout ce qui vient de vous, et à ce moment-là, je suis en relation, donc je suis plus comme hors sol. Sinon, je suis hors sol. Et donc, je pédale dans le vide, et ma panique ne fait que croître.
Oui, et d'où le fait que vous expliquez beaucoup, et là aussi, c'est un point très, très intéressant, qu'on a évoqué quelquefois avec d'autres invités dans les semaines qui viennent de s'écouler, mais sur lequel on peut quand même revenir avec vous, c'est le fait que la violence est souvent le fruit de cela. C'est-à-dire la plus grande agression, ce que nous jugeons comme étant la violence la plus insupportable, en réalité, il faut bien comprendre qu'elle vient de fantasmes intérieurs qui ont mené à presque une peur panique. Au fond, voilà. Les êtres les plus violents sont les êtres qui ont le plus peur. C'est le fond de votre thèse. Ce sont ceux qui n'ont pas de confiance.
Oui, parce qu'en fait, c'est la seule ressource qui leur reste. La violence vient de l'impuissance. Quand on a peur, ben voilà, on se sent impuissant face à une situation et on veut être sans la situation. On veut supprimer la situation. C'est ce que dit Swami Prajnanand. Pas tuer.
Oui, tuer.
Tuer au sens pas forcément physique, mais on veut supprimer, faire en sorte que cette situation n'existe pas. Donc si c'est quelqu'un, on va chercher à le supprimer pour de bon. Ou par des mots, ou par des gestes carrément. Donc oui, la peur génère évidemment la violence. C'est les zones les plus archaïques de notre cerveau, reptiliennes. Parce que la peur, c'est une des premières émotions qui apparaît dans le monde animal, en fait. Parce que c'est la survie, et donc dans la survie, c'est toi ou moi. Il y en a un des deux en trop. Donc s'il y a un problème, il faut faire disparaître.
Oui, et d'ailleurs, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, à nouveau, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, quand je subis une violence, du coup, moi, j'ai peur. En retour, je deviens violent. Donc le cycle de la violence et de la peur continue. Et du fait qu'on n'a jamais construit de confiance ni dans un sens ni dans l'autre, fait que la situation devient intenable. Et au fond, on s'entretue. On finit par s'entretuer.
Et qu'on perd totalement contact, en fait. Chacun est pris par son monde intérieur et ne voit plus l'autre. Tous les gens qui travaillent dans des zones de guerre, et ceux qui font un travail de paix, ramènent les gens à être en contact. Sinon, on ne fait que se représenter l'ennemi dans sa tête et des représentations qui sont de plus en plus négatives et qui font que ça nourrit en fait la haine et la séparation. Donc, on a absolument. Il y avait ces gens qui faisaient rencontrer des familles qui avaient eu chez des Israéliens et des Palestiniens qui avaient eu un tué. Et les gens se rendaient compte, mais on est dans le même chagrin. Au fond, le contact leur révélait leur humanité, leur même une humanité. Donc ça, c'est le contact qui le permet.
Oui, mais ça, c'est possible. Alors, cette confiance dont vous parlez, on peut y travailler pour soi, par rapport à la vie. On a dit, par rapport à des difficultés qu'on peut éprouver. On peut éventuellement le développer avec une personne en particulier, avec qui on est on a la possibilité d'entrer en contact. Mais que faire, et vous en parlez beaucoup, de ces choses qui nous dépassent. On ne peut pas entrer en contact avec l'État islamique, ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est soi-même dans une démarche de confiance, de travail sur la peur, etc., mais qu'en face, on n'a pas une entité ou même une personne, ou en tout cas un élément qui fait le même travail. C'est-à-dire que quand c'est dissymétrique, on risque de mourir quand même de faire confiance à l'ennemi. Christophe mais Massin.
Faire confiance ne veut pas dire croire que l'autre va me faire du bien. La confiance est lucide. Et donc, si je suis face à quelqu'un qui est prêt à m'assassiner, la confiance, c'est justement de reconnaître, tiens, cette personne, elle est animée par des impulsions meurtrières. Et donc, la confiance n'est pas, ah oui, très bien, c'est merveilleux, on va se tomber dans les bras l'un de l'autre. Non, c'est justement cette adéquation à la réalité qui va voir, bon, bah, dans cette situation, qu'est-ce que je peux ? La peur me dit, tu ne peux rien, et me paralyse. Mais si je me laisse fasciner par la peur, ben c'est pour le coup, je vais être détruit, en fait. Donc, la confiance, c'est de voir, ben oui, même dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux ? Ben parfois, je peux au moins, s'il y a plus de, que c'est que, comme il est soum, ben je peux au moins mourir dans la joie. C'est la dernière chose qui me reste. Ou dignement. Peut-être ça sera juste ça, mais ça sera néanmoins tout ça en même temps. Donc, il y a toujours quelque chose qui m'est possible, mais c'est pas dans la peur que je peux le voir, ça.
Oui, alors si je vous pose la question, c'est parce que là aussi, plusieurs fois, on a évoqué cette idée dans cette émission. C'est l'idée que, au fond, la non-violence, telle que la pensée Gandhi en particulier, c'est vraiment un travail sur la confiance. C'est-à-dire qu'il faut avoir un socle extrêmement solide. Beaucoup de mots, de vocabulaire que vous avez employé, on les retrouve en fait chez Gandhi dans la démarche de non-violence. Et la question, c'est pourquoi on a tant de mal à adhérer à une démarche qui pourtant est si forte et qui a démontré qu'elle peut être extrêmement efficace, entre parenthèses, beaucoup plus efficace que la violence. Mais je veux dire, pourquoi ça nous est si difficile d'adhérer et d'appliquer les règles de la non-violence qui, en fait, sont totalement liées à ce que vous venez de dire, au travail sur les peurs et au travail sur la confiance. Pour sauver la société, pour sauver l'humanité presque, je dirais. Pour moi, c'est la condition pour sauver l'humanité. Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi c'est un peu obsolète et qu'on nous rit au nez quand on en parle ?
Parce que chacun, ou les gouvernements fonctionnent comme les individus, chacun veut acquérir une confiance et un contrôle, être garanti qu'il va garder ce qu'il veut garder, qu'il va obtenir ce qu'il veut obtenir et qu'il sera prémuni de ce qu'il ne veut pas avoir. Et donc, il veut une sécurité supplémentaire et avoir le contrôle là-dessus. Donc voilà, si on manque d'eau, eh ben moi, je veux mettre le grappin sur les puits d'eau et que les autres ne l'aient pas parce que moi, je veux être sûr. Je veux une garantie et donc voilà, je suis prêt à tuer toutes les autres personnes qui veulent s'approcher du puits parce que je le veux pour moi. Donc c'est cette démarche qui, justement de l'ego qui veut ce contrôle en fait, qui veut faire coïncider le monde avec mon monde, ramener le monde à moi. Bon.
Alors que faire ?
Ben elle est compréhensible cette démarche. On fonctionne tous comme ça. On veut mettre le grappin et avoir la sécurité sur les choses. Donc, c'est sûr que c'est un raisonnement à très court terme. Et avoir cette largeur de vue, cet horizon beaucoup plus vaste qui va nous montrer que, mais non, de cette manière, je vais vivre justement dans la tension permanente, dans la peur permanente, qu'on m'arrache ce sur quoi j'ai mis le grappin, d'être convaincu par l'expérience intérieure, pas par des discours extérieurs, mais que si je me laisse commander par ça, eh bien, je vis dans la tension permanente. C'est quelqu'un qui disait, l'ego, c'est la peur de rater et la soif de réussir. Voilà, c'est très simple, mais voilà, ça résume fort bien les choses.
Alors une dernière question, Christophe Massin, c'est parmi les gens que vous avez rencontrés, les sages ou les guides spirituels que vous avez rencontrés, quel est celui qui incarne le mieux pour lui la confiance ? Quelle image vous avez d'une incarnation, en fait, de cette confiance dans la vie qui est une sorte d'abandon joyeuse à ce qui vient ?
Ah, vous me posez une colle, là. Je dirais, pour moi, ça a pris des visages assez différents. Je l'ai vu beaucoup chez les Tibétains et chez certains maîtres tibétains, comme Kangyur Rinpoche, qui se sont retrouvés dans des états matériels de dénuement total, qui étaient des réfugiés dans des conditions misérables, qui vivaient dans des taudis avec trois tôles, et des gens qui étaient joyeux, qui, pour qui ça posait pas de problème. C'est pas nécessairement des sages qui m'ont... Seulement des sages, je voudrais dire. Bon, Arnaud, que j'ai beaucoup côtoyé aussi, j'ai pu voir, là aussi, comme je le côtoyais de près, comment, dans des différentes circonstances difficiles de la vie, avait cette tranquillité, vraiment cette tranquillité, et tout son entourage, il dit « mais il y a ceci, mais il y a cela ». Et
au fond, la tranquillité est quand même un signe de grande sagesse, vous diriez.
Oui, mais justement, cette confiance de pas anticiper, de sentir, il y a l'éternité qui est là, en fait. Alors
ici,
que nous,
oui,
on le projette dans le temps, mais c'est le temps aussi. La peur est indissociable du temps. La peur a un minuteur dans la poche.
Donc, saisissons l'instant, carpe diem. Merci beaucoup, Christophe Massin, d'être venu aux Racines du Ciel pour nous parler de nos peurs et de la manière dont on peut, non pas les éliminer, vous nous l'avez bien expliqué, mais dont on peut les maîtriser pour pouvoir arriver à un mieux vivre, tout simplement. Il est temps maintenant de retrouver Virginie Larousse, la rédactrice en chef de notre partenaire, Le Monde des Religions, pour son agenda.
Bonjour Lélie.
Bonjour Virginie.
Alors, comme il n'est jamais trop tôt pour construire ce qui va nous permettre justement de mener une vie en confiance, j'ai eu envie de m'intéresser aujourd'hui à ce qui peut être fait dès l'enfance ou l'adolescence pour justement travailler à être pleinement acteur de sa vie en conscience. On le sait, en effet, nos jeunes adolescents sont souvent désemparés ou démunis face aux choix de vie qu'ils ont à faire, alors même que les décisions qu'ils ont à prendre auront bien sûr des conséquences cruciales sur leur vie future. On pense en particulier au choix d'orientation scolaire. C'est pourquoi donc aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir un merveilleux petit manuel que j'ai reçu il y a quelques semaines à la rédaction et qui s'intitule « 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves ». Alors il a été réalisé par Isabelle Servant qui est de formation professeure des écoles et qui, entre parenthèses, a eu une idée géniale, c'est de partir faire le tour du monde pour observer ce qui se fait de mieux dans les écoles publiques du monde entier et en rapporter en fait les meilleures pratiques, celles qui favorisent réellement l'épanouissement autant individuel que collectif. Tout ce passionnant travail d'ailleurs peut être consulté sur le site www.ecolepublique.fr. Je le recommande en particulier aux éducateurs, c'est passionnant. Cette enquête au long cours a aussi donné l'idée à Isabelle Servant d'écrire donc cet ouvrage « 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves ». Cet ouvrage invite les adolescents à vivre, comme le titre l'indique, une aventure en 30 jours pour trouver ce qui est essentiel pour eux, ce qui n'est pas toujours évident finalement à déterminer, et les aider ainsi à prendre les bonnes décisions. Car comme le dit l'auteur, justement, toutes les décisions sur ta vie que tu ne prendras pas, les autres les prendront pour toi. Ce voyage en 5 étapes donc va aider les adolescents notamment à trouver leur place dans la société en les valorisant et notamment l'auteur insiste bien sur le fait que le monde a besoin des talents de chacun quel qu'il soit, c'est-à-dire que ce n'est pas réservé à une élite. Il invite également à redécouvrir leurs atouts, les forces et les faiblesses, les valeurs qui leur importent le plus, ce qui les inspire. Pour leur proposer donc de poser des objectifs en fonction de leur réponse à la question « c'est quoi pour toi réussir ta vie ?» Et pour finir, donc l'ouvrage va leur donner des clés concrètes pour les aider à passer à l'action en précisant de manière très concrète leur projet professionnel. Ce guide donc comprend beaucoup d'exercices pratiques, de mise en situation et d'expérimentation qui permettent réellement de révéler les talents et les potentiels de tout un chacun. L'idée, c'est d'avancer pas à pas, quotidiennement, en faisant chaque jour ces exercices pendant à peu près une quinzaine de minutes. Je pense qu'en fait, ce livre s'adresse plutôt aux adolescents à partir de 13-14 ans, mais je précise qu'ensuite, il n'y a pas d'âge limite.
Oui,
parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte en cherchant un peu des informations sur ce livre que beaucoup d'adultes l'utilisent également avec profit pour eux-mêmes, notamment des adultes qui sont en cours de reconversion professionnelle, par exemple. Bref, donc, ce livre est à recommander très largement des éducateurs aux adolescents en passant finalement par toutes les personnes personnes qui souhaitent être accompagnées dans leur quête de sens. Donc je redis le titre, 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves, par Isabelle Servant. C'est sorti à la fin de l'année 2015 aux éditions Erol.
Merci beaucoup Virginie. Je rappelle aussi, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, le titre de votre ouvrage, Christophe Massin, paru aux éditions Odile Jacob, « Une vie en confiance, dialogue sur la peur et autres folies ». Je voudrais aussi signaler à nos auditeurs que je serai au Festival du Livre d'ici les Moulineaux le 11 juin de 14h à 18h pour une séance de dédicace des deux livres qui sont parus à partir des émissions que nous avons faites avec Frédéric Lenoir dans les dernières années, donc des émissions des Racines du Ciel. Ouvrage intitulé pour l'un « Voix d'espérance » et l'autre « Chemin de sagesse » et qui sont une coédition France Culture Albin Michel. Donc je serai là pour une dédicace au Festival du Livre d'ici les Moulineaux le 11 juin de 14h à 18h. Toutes les informations sont sur le site du Festival du Livre. En tout cas, il se situe sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville de la ville d'ici les Moulineaux. La semaine prochaine, je recevrai un poète, Gabriel Okunji, qui viendra nous parler de sa double initiation à la fois aux rites africains et à la poésie française. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lili Anvar. Il est temps maintenant de continuer notre exploration des chemins de sagesse avec Frédéric Lenoir.
J'ai parlé dans les dernières émissions de quelques faux amis du bonheur, l'injonction au bonheur, le bonheur dans le désir mimétique, les joies passives. Et maintenant, je voudrais, pour terminer, on arrive un peu à la fin de cette année, au terme de ces chroniques, il en reste quelques-unes, et je voudrais poser quelques questions importantes qu'on entend souvent, qui sont des questions assez essentielles sur cette notion de sagesse, cette notion de bonheur. Et la première que je voudrais poser, qui était une question très importante, c'est est-ce qu'on peut vraiment progresser dans le bonheur? Vous savez qu'il y a quand même un débat là-dessus. Un certain nombre de gens disent non, les choses sont déterminées. On va naître avec une génétique, un tempérament, heureux ou malheureux, joyeux ou triste. Et finalement, c'est quasiment impossible d'en changer. Le bonheur tient essentiellement à notre sensibilité. Le grand philosophe qui pense ça, c'est Schopenhauer, puisqu'il nous dit qu'on est totalement déterminé à être heureux ou malheureux en fonction de notre sensibilité, en fonction, on dirait aujourd'hui, de nos gènes, et qu'un individu qui a une capacité d'être heureux restera toujours dans cette capacité-là, il se réjouira toujours de ce qui arrive, et un individu qui a plutôt une capacité d'être malheureux ben, restera toujours plutôt malheureux, il verra toujours, on dira, le verre à moitié vide. Donc c'est toujours le vieux débat entre ceux qui voient le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, entre les optimistes et les pessimistes, et tout ça conditionne fortement notre capacité à avoir une satisfaction profonde de la vie. Alors il y a effectivement ceux qui sont partisans de ce déterminisme, et puis il y a ceux qui pensent, ils sont plutôt majoritaires, qu'il y a effectivement, non pas des déterminations, mais des conditionnements au bonheur. Donc je distingue bien, c'est une distinction importante, le déterminisme du conditionnement. Le conditionnement, ça veut dire qu'il y a effectivement un poids de la nature, de la sensibilité, du caractère, de la génétique, qui conditionne en grande partie notre capacité à être heureux, mais pas totalement. Donc la première chose, c'est que le conditionnement n'est pas total, et il permet donc une marge d'évolution qui nous permettrait d'être davantage heureux en fonction des choix qu'on va faire, en fonction du travail qu'on va faire, des exercices qu'on va faire, du regard qu'on va porter sur la vie. C'est ce que pense la majorité des philosophes. Aristote le disait très clairement, le bonheur tient en grande partie à la chance, au destin, c'est-à-dire effectivement notre sensibilité, le caractère qu'on a hérité, on dirait encore une fois aujourd'hui notre génétique. Et puis, il dit, pour une part aussi, il tient au travail qu'on va faire sur soi, c'est-à-dire la vertu, la morale, l'éthique, c'est tous nos choix de vie qui vont orienter notre vie vers une vie plus ou moins heureuse ou malheureuse. Aujourd'hui, les chercheurs, les sociologues, les scientifiques qui travaillent sur la question du bonheur sont tout à fait d'accord avec Aristote. C'est-à-dire, grosso modo, on nous dit que voilà, la génétique, c'est à peu près 50%. Et puis le reste, ça, un tout petit peu les conditions extérieures, très faiblement, le fait d'être né dans tel ou tel pays, par exemple. Mais ce qui compte aussi, c'est effectivement les choix de vie qu'on va faire et le regard qu'on va porter sur l'existence. Et on peut évoluer dans ce regard, on peut changer, on peut grandir, on peut régresser. Alors les chercheurs, les sociologues ont fait une étude assez intéressante. Ils appellent le taux de bonheur conditionné par nos gènes le taux de bonheur fixe. Ça veut dire que selon notre génétique, selon notre caractère, notre sensibilité, comme dirait Schopenhauer, on a tel taux, disons, une capacité de bonheur, de satisfaction de la vie, de 5 sur 10 pour un individu, de 9 sur 10 pour un autre, de 3 sur 10 pour un troisième. Et puis, si on ne fait aucun travail sur soi, si on se contente de vivre, je dirais, de manière spontanée, mais sans essayer de grandir, de progresser, de se transformer, on restera toute notre vie à ce taux de bonheur. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive dans notre vie, on sera toujours plus ou moins à ce niveau-là. Et ils l'ont d'ailleurs vérifié à travers des expériences extrêmement intéressantes, notamment des gagnants au loto. Donc, ils ont pris plusieurs centaines aux États-Unis de gagnants à la loterie, et ils ont vu que les gens passaient de leur... Disons, quelqu'un qui est à 5 sur 10 va passer à 10 sur 10 lorsqu'il va gagner, parce qu'il va être dans une période euphorique. Et puis, ils ont établi qu'en moyenne, au bout de 6 mois, la personne va retomber à 5 sur 10. C'est-à-dire, ce qui le rendait heureux et malheureux avant, ça continue d'être les mêmes choses. Vous pouvez gagner au loto et être extrêmement heureux, mais si vous êtes un anxieux, vous continuerez d'être anxieux, et donc ce qui vous rendait malheureux avant parce que vous êtes anxieux, ça continuera, et ça continuera même peut-être plus encore, parce que vous aurez plus d'argent et vous aurez plus de raisons de vous soucier d'autres choses. C'est-à-dire qu'avant, vous vous souciez peut-être de ne pas avoir assez d'argent, là, vous vous souciez qu'on va vous voler votre argent. Donc l'anxiété est le problème, plus que le manque d'argent. Ce qui fait qu'effectivement, le taux de bonheur fixe évolue. Ils ont fait on revient toujours à son taux de bonheur fixe si on ne travaille pas sur soi. Ils ont fait exactement la même observation. À l'inverse, avec des gens qui ont été des grands accidentés de la route et qui sont devenus handicapés, en moyenne, leur taux de bonheur chute très très bas, 0 ou 1 sur 10 pendant 2 ans. Et après, au bout de 2 ans, en moyenne, ils reviennent à leur taux habituel. Quelqu'un qui était à 5 sur 10 revient à 5 sur 10. Ce qui, avant son handicap, le rendait heureux, malheureux, reste la même chose. Et donc, on retrouve du bonheur dans l'amitié, dans le plaisir d'écouter de la musique, de manger, etc. Et l'observation nous dit que ces personnes qui ont vécu ces tragédies, c'est souvent dans ces populations-là qu'on va avoir une évolution positive du bonheur, parce que ce drame les a fait réfléchir, les a amenés à transformer leur regard sur le monde, et qu'ils vont avoir la capacité de progresser dans le bonheur, ce qu'on appelle la résilience. Et que la résilience permet de passer d'un état de bonheur à un état supérieur à cause d'une épreuve, à cause d'une difficulté qui parfois peut être une difficulté majeure. Alors on peut être écrasé et ne jamais grandir, on peut au contraire utiliser une maladie, une épreuve, un accident pour regarder la vie autrement et pour développer une capacité d'être heureux plus importante. Ce qui fait que ça nous montre effectivement que des individus qui travaillent sur eux-mêmes, des individus qui vont par exemple méditer, qui vont prendre le temps de vivre autrement, de savourer davantage l'existence, d'être davantage présent dans l'instant, qui vont réorienter leur vie autour des choses essentielles, qui vont faire les bons choix de vie, vont pouvoir grandir dans la satisfaction de la vie, ce qu'on appelle le bonheur. Et ça relève profondément de leur choix, de leurs décisions, et pas uniquement de la génétique.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et que vous pouvez la réécouter sur notre site pendant 1000 jours. Dans un instant, rue des Écoles.